Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier. Chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio Immo.
Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo, bienvenue dans le Mac de l'Immo. On attaque cette deuxième heure consacrée à notre invité du jour. Je suis toujours avec Fabrice Coustet, bonjour.
Bonjour Bernice, bonjour à tous.
Et donc, comme chaque semaine, nous recevons un invité, une personnalité marquante du secteur de l'immobilier. Et aujourd'hui, c'est Olivier Châtelain-Malherbe. Bonjour.
Bonjour Bérénice. Bonjour Fabrice. Bonjour à tous.
Directeur général adjoint de l'immobilier résidentiel et des régions pour Vinci Immobilier. On est ravis de vous recevoir. Donc pendant une heure, on va apprendre à vous découvrir. On va parler de votre parcours. On va parler de Vinci Immobilier, évidemment. On va parler un peu de votre vie personnelle avec vos passions. Et puis, on va écouter des témoignages, donc des proches, un collaborateur qui ont témoigné pour vous. Et enfin, vous êtes aux commandes de la programmation musicale. Et on a écouté une première musique, celle de George Michael, Face. C'est votre choix. Pourquoi ce choix musical ?
Ben, écoutez, quand vous nous demandez de faire un choix de musique, déjà, j'en écoute beaucoup. J'ai en plus la chance d'avoir une fille qui joue du piano et qui chante, donc à la maison, la musique est plutôt extrêmement représentée. voilà, c'était par ordre chronologique et dans les effets de vie. Et Face, pour moi, c'est ma jeunesse à la fois en termes de musique, puis en termes de look, parce que George Michael, à l'époque, avait un look très tranché avec et très bien entouré. Donc, quand on souhaite ouais. essayer de trouver un look pour exister, ben voilà, ça faisait partie des...
Oui, voilà,
des personnalités, des personnalités.
Voilà. Deux icônes dans les années 80, Madonna pour les filles, pour les teenagers, voilà. Et George Michael pour les garçons.
Ouais, exactement.
Bon, alors voilà pour votre choix musical. On va parler, on va peut-être commencer avec Vinci Immobilier. Oui. Un petit mot peut-être sur le groupe, un petit mot sur l'année 2022. Quel bilan vous avez fait de cette année ?
Bah, une bonne année, 2022, pour le groupe Vinci Immobilier. Une bonne année. Avec beaucoup de difficultés pour faire des bonnes années. Voilà, des mini-crises qui nous touchent, en tout cas des aplanissements sur plein de sujets. Le marché, le métier de la promotion immobilière aujourd'hui est quand même un peu parfois enlisé dans certains secteurs et on a des difficultés à faire notre travail correctement. En tout cas, on le fait correctement, mais il est beaucoup plus dur à faire.
On en a parlé dans la première heure avec la construction neuve en plein marasme. En tout cas, la FPB pousse des cris d'alarme. Hein. C'est vrai que c'est de plus en plus difficile de faire votre métier de promoteur, notamment d'avoir ces fameux permis de construire. Les maires de certaines grandes villes sont devenus extrêmement frileux. Il y a la zéro artificialisation nette. Bref, on a l'impression que c'est de plus en plus compliqué pour vous. Enfin, pour vous, les promoteurs, de manière générale.
Bah oui, je rappelle qu'il y a un peu plus de 2 ans et demi, 3 ans, on était dans les municipales. Et donc, dans ces municipales, s'est passé plusieurs choses. Déjà, on a hérité de nouveaux maires.
Les maires écolos, enfin les maires.
Entre autres, oui, mais parfois d'autres maires, d'autres couleurs. Hein. Il y a des nouveaux maires. Et ces nouveaux maires, eh bien, il faut, sans dire les éduquer, mais les évangéliser, j'ai envie de dire, à la promotion immobilière et à l'urbanisme, qui n'en aient pas peur. Puisque le but du jeu d'un promoteur, en tout cas comme Vinci Immobilier, c'est de s'intégrer au sein de leur collectivité, au sein de leur municipalité, pour leur amener des projets dont ils ont envie et qui peuvent partager avec les administrés, avec les citoyens, quoi.
Est-ce que vous avez l'impression, Olivier, que voilà, l'immobilier a changé au cours de ces dernières années ? On parle de plus en plus voilà, d'immobilier à l'envers, entre guillemets, mais c'est-à-dire, voilà, 10e traversant avec de la lumière. Bon, il y a la crise sanitaire qui est passée par là, mais est-ce qu'il y a des nouveaux modes de construction, des nouvelles attentes des Français ?
Complètement. De toute façon, on doit être extrêmement agile en tant que promoteur et puis on doit être encore plus agile parce que, comme vous le savez, nous travaillons sur des temps longs entre le moment où nous trouvons un terrain, le moment où on met en œuvre les études et puis qu'on fasse un comité d'engagement, qu'on puisse passer après au mode permis de construire et livraison. Vous imaginez bien que les envies peuvent changer, donc c'est 3, 4, 5, 6 ans parfois. Donc les envies peuvent changer. Donc en tant que promoteur, parfois, en tout cas avant, on s'imaginait quel allait être le produit de demain. On se le dit encore aujourd'hui, mais avant, par rapport aux charges foncières qui augmentaient, on avait tendance à réduire les espaces, à les contraindre, à faire des passoires, à éviter les passoires thermiques. Donc on évitait les extérieurs, on évitait les baies vitrées trop grandes, on arrêtait les baies coulissantes, on faisait des ouvertures à la française. Voilà, un tas de choses pour faire une espèce de thermos de notre logement. pour éviter d'avoir de trop grandes pertes énergétiques. Et donc, ça nous a amené à resserrer, à faire moins d'extérieur. Puis aujourd'hui, la qualité des matériaux et les envies des Français font que, eh ben, il faut réouvrir cet espace, il faut retourner vers l'extérieur, faire des balcons, faire des vitrages plus grands, des appartements traversants.
Il y a même des réglementations. Je crois que Pinel Plus, maintenant, oblige, entre guillemets, c'est dans les critères,
hein, Pinel Plus,
d'avoir
un
immeuble traversant avec de la lumière, avec des extérieurs.
C'est un combo.
C'est l'enfer, Pinel Plus, il faut le dire. Enfin, c'est hyper compliqué. On en discutait avec des promoteurs, hein, on a fait plusieurs émissions là-dessus, et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est ce dispositif, maintenant, Pinel Plus, est fait pour démotiver en fait, les personnes
Alors, je suis très partagé. Je suis très partagé parce qu'il y a la personne qui habite un logement qui vous parle, et là, il y a le promoteur immobilier et le commerçant derrière ce micro. Je trouve que avoir des espaces plus grands, tournés vers l'extérieur, traversants, bah honnêtement, tout le monde a envie d'avoir une habitation qui ressemble à ça.
Oui.
Voilà. Après, il y a les contraintes évidemment qui sont liées à nous promoteurs, mais il y a aussi les contraintes liées au PLU, au plan d'urbanisme. Oui. Qui a été écrit aussi il y a quelques années, comme je vous le disais, les temps sont longs, et donc il y a des plans d'urbanisme qui ne sont plus en adéquation, du coup, avec ce qu'on est en capacité de faire. Et nous, en tant que promoteurs, pour avoir un permis de construire ou l'obtenir, on se doit de coller à ce PLU, parce que sinon, il y a de grandes chances de se faire retoquer notre permis, ce qui serait logique. Donc, voilà, il faut que d'abord, les municipalités, les collectivités, les plans d'urbanisme changent, et là, il nous sera plus facile de faire du Pinel Plus, avec une augmentation de surface. Et puis dans Pinel Plus, il y a un élément important dont on parle beaucoup, c'est le diagnostic énergétique, le DPE, le diagnostic énergétique qui, au moment où nous, on décide aujourd'hui de construire un immeuble, et au moment où on va le livrer, peut être modifié, puisque les diagnostics, en tout cas,
les
coefficients
barèmes,
qui correspondent à les barèmes, changent quotidiennement. Donc,
ça dans du neuf, on peut quand même estimer qu'on va avoir une bonne note.
C'est
au
du B
de ce
au moins,
DPE.
Non
évidemment qu'on a une meilleure note que dans l'ancien.
Mais c'est pas forcément du A. Hein.
Mais c'est pas forcément du A. En
ça
tout
peut
cas,
être du
on
B
peut aujourd'hui vous proposer, en vous indiquant qu'on va tout faire pour faire du A. Et puis, les choses vont changer et on va vous livrer du B.
D'accord. Il y a le DPE, il y a l'audit qui va arriver le 1er avril.
Et est-ce que c'est possible d'être au-delà de B quand on achète un logement neuf? C'est possible du C, par exemple?
Comme je vous le disais, dès l'instant qu'on va augmenter quand même beaucoup les surfaces extérieures et les ouvrants, c'est de la
forcément,
perte énergétique.
Ouais.
Donc forcément, ça, malheureusement, ça abîme la note. Donc il y a des petites choses comme ça où, sur lesquelles il faut bien s'entendre.
Mais au bout d'un moment, vous n'avez pas l'impression qu'il y a beaucoup trop de règles au final et qu'elles s'entrechoquent et que ça devient un casse-tête pour les promoteurs?
Clairement, quand je vous parlais de mini-crise, ça fait partie d'une mini-crise au sein de notre métier, de dire que il y a trop de règles et on doit rentrer dans beaucoup trop de cases et ça devient compliqué pour nous.
D'autant qu'on a aussi subi durant cette année 2022 le choc de l'inflation. Mais l'inflation, vous la connaissez aussi à travers la hausse des coûts de matériaux, notamment de matières premières, des bras aussi, puisque la
main-d'œuvre
aussi, il faut que ça suive au niveau des salaires. L'équation se complique parce qu'en même temps, on voit que les Français ont de plus en plus envie de consommer ou d'avoir du pouvoir d'achat immobilier. Et puis d'un autre, on a cette construction qui est contrainte maintenant depuis plusieurs années. On est loin des 300 000 logements neufs qu'il faudrait chaque année.
Ah, très très loin, très très loin. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres récents, mais on est en train de passer, on est passé sous la barre des 100 000.
C'était 110 000 là, selon les chiffres du ministère, je crois.
Oui, mais c'est en baisse.
On prévoit
90 000 pour 2023, au global. Je rappelle que là où on a eu une plus grosse crise, 2008, on a atteint les 80 000. J'aimerais pas qu'on passe en dessous de ce plancher qui est déjà extrêmement bas.
Et 2008, on n'était pas aussi nombreux.
Quand je vous dis ça, c'est pas pour que Vinci Immobilier, c'est pour que les gens puissent se loger et trouvent de l'hébergement en correspondance à leurs besoins. Il y a des gens à loger et c'est en ça qu'il faut y répondre. Alors, on a nos camarades de l'immobilier ancien qui amènent un turnover d'appartements et qui savent revendre, ils tournent sur le même circuit. C'est un circuit fermé, l'ancien. C'est à nous d'apporter du neuf et de rapporter des nouveaux produits dans le marché pour que tout le monde se porte bien.
Sur les aides d'ailleurs, il y a sur les aides, les Pinel, tout ce qu'on a pu connaître, on a l'impression que c'est vrai qu'on a un immobilier en France un peu sous perfusion de cette aide fiscale. Qu'est-ce que vous en pensez? Certains disent que ça serait mieux de tout débrancher finalement et de laisser le marché se faire. Votre avis là-dessus, Olivier Chalamalère?
tout débrancher, on va créer une crise de plus dans notre système. Donc voilà, débrancher brutalement.
Donc on continue.
Eh ben non. Non, je pense qu'il faut... On a pris une trajectoire de baisse, en tout cas, de ces intérêts fiscaux. Il faut revenir, je pense, à des choses plus raisonnables et d'arrêter de perfuser, évidemment, la promotion, puisque tout le monde vit, et le secteur vit avec le stress de l'arrêt de ces dispositifs. Là, on le vit avec le Pinel, on se dit, ah mince, ça baisse, comment on va faire pour vendre, les coûts de construction ont augmenté, on a acheté une charge foncière. Tout ça, c'est fait. On l'a trouvé, la charge foncière, on a déjà préétabli le prix, on doit payer ce prix. Les coûts de construction, ils évoluent. Si on ne les suit pas, ben, on n'a personne pour construire, donc on n'a pas le choix. Et nous, on a un client en face qui paye le prix qui est convenu il y a quelques années. Donc nous, on se doit de faire ça. Par contre, on a pris aussi en compte sa capacité à prendre un dispositif fiscal et de pouvoir, en complément pour financer son bien, avoir de l'économie d'impôt, un taux d'intérêt à X%. Et là, en ce moment, on voit bien que tout ça se fragilise. Donc essayons d'arrêter de fragiliser le métier et de revenir sur des choses beaucoup plus sociétales, rentables et directes avec le marché des primo ou des secondo-accédants, en tout cas de la résidence principale. Il faut bien recoller à ça, parce qu'il y a un vrai besoin. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, qu'on a oublié, parce qu'on on préférait discuter avec l'investisseur locatif, qui était peut-être plus rapide dans sa décision.
Après, l'investisseur locatif, c'est un logement aussi pour quelqu'un.
Exactement, et il est essentiel. Vous avez raison de le signaler, Bérénice. C'est en effet d'abord une location qui se dégage pour les gens qui ne sont pas en capacité d'acheter. Le temps qu'ils mettent de l'apport de côté pour pouvoir eux-mêmes soit acheter l'appartement dans lequel ils vivent, soit partir sur une typologie supérieure. Mmh. Vous avez complètement raison de le signaler.
Tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a les logements existants, mais la population française ne cesse de croître. On est beaucoup plus nombreux qu'en 2008, donc forcément, et elle croît chaque année, il faut des nouveaux logements. Et ça, il n'y a que les logements neufs pour y répondre.
En effet.
On va peut-être parler de l'année 2023, les perspectives pour Vinci Immobilier, comment ça s'annonce? Bon, c'est déjà entamé, hein, 2023, mais
Alors, comme vous le savez, comme toute grande entreprise, hein, on prévoit un plan qui date de l'année dernière avec des objectifs. Ce plan, chez nous, il est ambitieux. On va essayer, en fait, de sans dire qu'on va essayer de performer le marché, on va être dans le marché, on va essayer de s'y tenir. Je pense que les deux premiers mois qui viennent de passer me font peut-être un petit peu mentir, parce qu'on voit la difficulté de faire des transactions et de les amener surtout jusqu'au bout, parce que la perte de solvabilité des clients, hein, il faut la rencontre de l'offre et de la demande.
C'était ce à quoi vous vous attendiez fin 2022 ou pas? Ou ça s'annonce pareil ou un peu plus compliqué ou...
Non, je pense qu'en tout cas, moi, je m'y attendais. On voit les taux qui ne cessent d'augmenter. Le fait d'avoir un taux d'usure non plus au trimestre, mais au mois, nous a amené à une augmentation plus régulière, finalement, du taux. Et donc, ça devient presque plus compliqué, en tout cas pour nous.
Ah oui.
L'augmentation du taux d'usure dans sa globalité, c'est une très bonne chose. Une très bonne chose, parce qu'on perdait trop de gens en solvabilité. Mais tous les mois... quand on voit que nous, le temps d'une première réservation lors d'une mise en com et de la réitération chez le notaire, on est 3-4 mois plus tard. Donc vous imaginez bien qu'en ce moment, 4 mois plus tard, c'est presque 0,5 points, 0,80 sur le taux de crédit en plus. Donc, et les banques n'ont pas forcément très envie de prêter en ce moment. Voilà, j'appelle mes camarades banquiers à faire des efforts et d'être sympathiques avec les gens qui souhaitent investir dans l'immobilier. Mais... on s'attendait donc à ce que ça soit difficile. C'est difficile, mais c'est doucement difficile. Voilà, donc ça nous donne le temps de mettre des choses en place, de pouvoir communiquer avec nos futurs clients, de leur apporter des solutions de financement, les frais de notaire, le fait d'offrir des frais de notaire, c'est pas un cadeau gratuit.
C'est
pas un cadeau gratuit, c'est vraiment dans l'idée... Au-delà de l'envie, ils en ont besoin et on est là pour leur donner ce besoin. C'est-à-dire que moi, les années précédentes, je vous avoue que je n'étais pas un acteur important des remises commerciales. Mais aujourd'hui, je me dois de faire quelque chose pour nos clients.
Mais c'est ça, et vous n'avez pas de clients en fait.
Si on en a, s'aperçoit. Parce que la demande est là, ils ont envie. Mais on fait moins. Et on fait des déçus. Et ça, c'est pas possible.
On va peut-être écouter le premier témoignage, celui de votre collaborateur Nicolas Garonne, et on revient juste après. Nicolas Garonne, bonjour. Vous travaillez avec Olivier Châtelain-Malher. Vous êtes directeur commercial de Vinci Immobilier Patrimoine. Depuis combien de temps travaillez-vous avec Olivier et comment est-il dans le travail?
Alors, ça fait une bonne expérience. Ça fait à peu près 16 ans aujourd'hui qu'on travaille ensemble. Donc 11 ans un peu plus de 11 ans maintenant chez Vinci Immobilier Patrimoine, ben, lors de la création de Vinci Immobilier Patrimoine. Comment est-il dans le travail? Ben, c'est avant tout, on va dire, un manager qui est toujours disponible, commerçant dans l'âme, avec un excellent relationnel, que ce soit en interne, en externe, et une parfaite vision du marché avec une expertise dans son domaine.
Olivier est avec nous en studio. Il vous écoute, Nicolas. Okay.
Moi, si je dois lui adresser un message, c'est qu'il reste comme il est et qu'il garde toujours un coup d'avance, que ce soit en vision de marché, en stratégie commerciale, afin qu'on puisse continuer à réussir et à exceller dans notre domaine.
Olivier Châtelain-Malherbe, justement, on en a un petit peu parlé juste avant l'émission, mais on a l'impression que tout évolue, les méthodes de management également depuis cette crise sanitaire. Comment votre travail, votre organisation a changé?
Alors, comme on vient de l'entendre dans le témoignage, je suis ravi d'entendre Nicolas, avec qui je partage ma vie professionnelle depuis un bout de temps. Et on a fait deux entreprises, donc c'est la seule, une des rares personnes que j'ai choisie et qui m'a choisi pour changer d'entreprise. Et qui
chez Nexity, c'est ça?
Voilà, c'était Nexity, en effet. Et qui m'a rejoint et avec qui on avance toujours et que je prends plaisir à faire grandir et à transmettre tout ce que je sais. Et il en sait aujourd'hui énormément. Et évolue à une vitesse incroyable. C'est également un excellent commerçant. Donc moi, j'ai une population commerciale, beaucoup à manager. J'ai de l'administration des ventes et une population commerciale. Et puis j'ai tout mon métier transverse, parce que je travaille avec toutes les régions et toutes les directions générales, ainsi que toutes les équipes de région sur toute la France. Donc voilà, j'ai ces différents métiers. En termes de management commercial, on change pas beaucoup. Il faut savoir régulièrement, il faut faire des points réguliers, rester au contact de ses équipes, les motiver au quotidien, empêcher qu'ils se mettent des mauvaises idées en tête.
C'est quoi, par exemple, les mauvaises idées?
On a tous une vie aussi, on a une vie personnelle et on va bien, on va moins bien, et ça peut toucher notre activité. On peut être moins en forme le matin et on va passer une mauvaise journée, louper quelques réservations, en tout cas ne pas faire l'objectif qu'on s'était fixé. Et puis on a des sujets professionnels, on a évidemment aussi des collègues avec qui on s'entend, on s'entend pas. Il faut vivre avec tout ça, on doit vivre tous ensemble, et du coup moi je suis là en tant que manager pour être là dans les bons et les mauvais moments, et les bons moments aussi, il faut les créer. Il faut créer des lieux de rencontre, des moments de rencontre. J'ai beaucoup de chance. Le relais, je suis à l'initiative, mais j'ai des collaborateurs qui font le relais. J'ai le déjeuner des cultures. Il y a beaucoup de rassemblements, les galettes, les anniversaires. On a fait récemment et c'est encore d'actualité.
Faut animer le réseau, quoi, c'est ça, en fait.
Exactement, c'est que de l'animation, mais ça marche pour le professionnel comme pour l'interne. J'ai le mois de l'amour en ce moment, vous voyez, au bureau, le mois de l'amour avec des preuves d'amour jour par jour.
Voilà. Ah oui, entre collaborateurs.
Exactement.
Qu'est-ce que vous avez eu comme belle preuve d'amour, ce mois-ci, le mois du 14 février?
Parfois très peu de choses. C'est des compliments, s'obliger à faire au moins deux compliments à des collègues. C'est des toutes petites choses, mais c'est des petites choses qui amènent. Et c'est une de mes collaboratrices, Belvinda, qui a mis ça en place. Et...
Depuis quand? Depuis le confinement?
Il y a toujours eu cette ambiance. J'ai de la chance, comme Nicolas l'a dit, j'ai développé en tout cas Vinci Immobilier Patrimoine. Et dans le développement, j'ai recruté 100% des collaborateurs qui y sont. Donc je pense que on donne un peu son ADN à chaque recrutement. En tout cas, on prend des gens avec qui on sait qu'on va pouvoir avancer, faire avancer la structure dans laquelle on est.
Et c'est quoi le secret pour faire un bon recrutement ?
C'est tout de suite déceler, une chose qui est ultra importante, c'est la confiance. C'est de savoir quels vont être nos rapports au quotidien et est-ce qu'on se doit de s'appeler tous les jours parce qu'on est inquiet, ou au contraire, on va s'appeler tous les jours pour se dire qu'on s'apprécie et se féliciter. Voilà.
C'est, voilà. Sympa,
c'est beaucoup plus sympa que le reporting.
Un petit voilà. mot peut-être sur le télétravail, ouais. puisque on le sait, hein, de nombreuses entreprises ont mis ça en place depuis le Covid. Ça a été le cas pour Vinci Immobilier. D'ailleurs, vous avez changé de siège. Enfin, vous avez changé de locaux. C'est le siège, hein, c'est ça, et ouais, un siège plus flex, dans lequel j'ai été d'ailleurs pour la journée de l'environnement. Ouais. Vous m'aviez fait visiter. C'est très joli, c'est très sympa, c'est très aéré. Comment ça se passe? C'est des bureaux en flex office, c'est ça?
Il n'y a plus de bureaux.
C'est quoi? C'est des open space?
Voilà, c'est des open space et vous avez juste des bureaux et des salles de réunion pour pouvoir vous isoler pour passer un coup de fil ou pour faire une réunion sur un thème que vous avez choisi en réservant votre espace. Donc c'est très modulaire et en fait nous sommes sur 5 étages et nous sur 7 étages, pardon, parce qu'il y a 2 étages qui ne sont pas pour Vinci Immobilier, c'est pour ça que j'en comptais que 5. Mais et en fait vous pouvez bouger dans ces 5 étages et réserver une typologie de salle selon vos réunions, selon vos besoins, selon la quantité de collaborateurs que vous allez avoir avec vous. Et voilà. Donc, c'est en effet, ça a été aussi un choc hein, pour beaucoup, parce qu'en fait, on a déménagé en même temps. Nous étions en Boulogne-Billancourt, il a fallu aller à Nanterre. Donc, déjà, les collaborateurs, il faut les remettre dans un autre système, il faut changer les habitudes de trajet, les temps de trajet. Donc, c'est important. Et en plus, on est passé en flex avec une idée de pourcentage. Grâce au télétravail, de se dire que au quotidien, le siège, le bureau serait rempli à 60-70%.
Du coup, il y a une réduction des coûts, j'imagine.
On a besoin de moins de surface. Ouais. On a besoin de moins de surface. Et en effet, ça réduit les coûts.
Mais est-ce que Olivier, vous remarquez que voilà, dans le flex, si les gens viennent assez fréquemment, finalement, ils se mettent à la même place, mais on n'a plus voilà la photo du chien ou le mug à son nom.
Les mugs reviennent en force. Les mugs et la photo du chien revient en force. Non, ça revient. Oui, il y a des habitudes qui sont prises. Mais parce que souvent, dans certains secteurs, il y a des macro-zonings dans lesquels vous avez des services. Et donc, le mélange des services.
Le commercial.
Voilà, vous allez mélanger l'informatique, la comptabilité. Donc, la comptabilité va se retrouver plus près des autres comptables et l'informatique. Mais il y a des gens qui se mélangent. Voilà, ça nous arrive vraiment de nous mélanger. En tout cas, moi, à mon étage, vous avez la technique, vous avez le marketing, vous avez le commerce, et puis une partie de la direction régionale. Et on se mélange assez, mais bon, il y a quand même des bastions forts qui se créent, un macro-zoning qui voilà. Et on a vu, heureusement, revenir les photos. Des D'accord. animaux, des amis, alors, des proches,
etc. C'est intéressant
etc.
parce que là, sur le flex, il y a beaucoup d'idées et d'avis contraires. Hein.
Oui.
On avait Guillaume Autier, le patron de Meilleurto, sur ce plateau il y a quelques semaines, qui nous disait que pour le flex office, lui, il voyait ça comme nier finalement le fait qu'on ait une place dans l'entreprise, le fait de ne plus avoir de place. Vous vous dites, finalement, ça se recrée.
Bah oui, je vous parlais d'événements il y a 2 minutes. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut faire.
Vous compensez d'une autre manière.
Oui, il est clair qu'on avait l'habitude de se retrouver qu'entre nous et de créer des événements. Mais ces événements, il faut continuer à le faire. Mais encore une fois, j'en étais à l'initiative, mais vraiment, j'ai de la chance d'avoir des collaborateurs et des collaboratrices qui n'ont pas lâché le sujet et les efforts. Et c'est ça qu'il faut continuer à avoir. C'est important, le fait de revenir au travail et de se voir. Moi, j'ai des collaboratrices qui elles ont 2 jours de télétravail. Elles ont des temps de trajet de plus d'une heure, mais je peux vous dire qu'elles rêvent de revenir le lendemain au travail pour voir leurs collègues, pour échanger. Donc les 2 jours, ça compte pour elles, parce que c'est 2 jours dans lesquels elles vont pouvoir se poser et pas avoir ces problèmes de temps de travail, de temps de trajet, pardon. Mais elles ont besoin de revenir et on n'a pas besoin de forcer. Puis il faut, c'est de l'organisation aussi. Hein. C'est pas parce qu'on est à distance qu'on doit pas se parler dans la journée.
Bien
hein.
sûr.
Alors ça amène peut-être des reportings complémentaires parce qu'on se dit les gens sont à distance. Finalement, qu'est-ce que tu as fait quand tu as été à distance? Donc ça amène parfois des reportings ou des points de fin de journée qu'on faisait pas forcément quand on était en présentiel. Voilà, c'est des réglages en fait, c'est des réglages, mais on s'y fait. Et puis je trouve que ça amène malgré tout ces jours de télétravail, l'épanouissement de beaucoup de collaborateurs quand ils peuvent le faire, parce que n'oublions pas quand même que il y a beaucoup d'artisans. J'ai mon épouse qui travaille dans un métier dans lequel il y a des artisans, et les artisans malheureusement ne peuvent pas bénéficier de ce télétravail. Et chez nous, par exemple, on a une population comme les directions de programme qui sont obligées, doivent être au bureau et doivent être sur le chantier. Et les jours de télétravail, du coup, voilà, ils ont 3 endroits finalement et pas 2 à gérer. Donc voilà. Mais on apprend à vivre plus facilement avec un ordinateur. mauvais exemple avec mon calepin sous les yeux, mais on vit avec un ordinateur, on dématérialise davantage, on a vraiment évolué, je trouve qu'il faut...
Il y a des outils à disposition. Voilà. En tout cas, chez vous, c'est deux jours maximum de télétravail par semaine.
Alors, c'est deux jours préconisés. Après, chaque manager, par rapport à son organisation et comme je vous le disais, par rapport au métier représenté dans son service, va pouvoir moduler, mais en partage avec les collaborateurs et avec ses équipes, quoi.
On va faire une petite pause musicale. Juste après, on parlera de votre parcours, donc ce que vous avez fait avant Vinci Immobilier. On écoute tout de suite votre deuxième choix musical.
I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break comes a call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know to my bones. Oh, when love is dead, I'm loving angels instead. And through it,
Robbie Williams, Angels sur Radio Imo. Deuxième choix musical d'Olivier Châtelain-Malherbe. Pourquoi ce choix ?
Bah, c'est un choix pas facile, mais un peu. Il se trouve que les parcours de vie font que j'ai perdu beaucoup de proches. Mmh. Et je trouverais ça sympa qu'ils soient des anges et qu'ils me regardent. Voilà, et que je les embrasse.
Le Mac de l'Imo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
Alors Olivier, on va parler de votre parcours. Donc vous êtes DGA, directeur général adjoint de l'immobilier résidentiel et des régions chez Vinci Immobilier, je le rappelle. Avant ça, alors qu'est-ce que vous avez fait ? On va peut-être recommencer par le début. Vos études.
Alors vous avez une petite heure de plus ou pas ?
On va résumer.
Alors je suis un des rares commerçants à avoir fait des études de comptabilité.
D'accord.
Ce qui m'a quand même permis, j'avais pas envie d'aller très longtemps à l'école au début, puis finalement j'ai raccroché un bac, puis j'ai poursuivi les études de comptabilité. Et en fait, quand je faisais de la comptabilité dans mes stages, etc., je me suis vite aperçu que mon temps préféré était de voir mes clients du cabinet comptable et d'évoquer avec eux leurs entreprises, leurs petites PME, ce qu'ils faisaient, quel était leur business. Et donc, voilà. Je me faisais d'ailleurs assez tirer l'oreille par le patron du cabinet parce que j'oubliais de noter mes horaires et le temps passé avec mes clients. Et il me disait, mais Olivier, que fais-tu? Il faut marquer tes notes d'honoraires pour pouvoir que le cabinet...
Donc passionné par leur business plutôt, finalement.
Exactement, être à l'écoute, leur trouver des solutions dans leur business, évidemment lié à la comptabilité. Donc, par contre, la comptabilité m'a permis d'apprendre à compter et de savoir évidemment surveiller une exploitation, m'a apporté des UV de fiscalité, m'a apporté des UV de droit, m'a apporté toutes ces choses qui me permettent d'être assez complet dans mon business et d'avoir un regard à 360 et en tout cas de pas être gêné dans tous les secteurs d'activité qui dans la chaîne de valeur de la promotion immobilière en tout cas. À part l'urbanisme que je n'ai pas appris, mais que j'ai appris avec l'expérience, j'ai envie de dire, que je ne maîtrise pas encore, c'est très compliqué.
Vous auriez pu être comptable, mais finalement, parce que vous avez passé votre le DECG à l'époque.
Voilà, j'ai fait des UV de comptabilité pour pouvoir, pour pouvoir faire de la comptabilité. Voilà. Et j'ai vite, donc j'ai arrêté, je me suis orienté, et j'ai eu de la chance. Quand j'étais étudiant, je travaillais dans la grande distribution, dans une entreprise, je peux citer,
bien sûr.
S'appelle Decathlon, qui a été
une qui va pas très bien en ce moment.
Qui va une formidable. Eux, ils vont très bien.
Ils vont très bien,
Ils vont très bien, c'est un peu la concurrence.
Combien de temps chez Decathlon?
C'est plusieurs années, mais comme j'étais étudiant, c'était.
Donc, première expérience sur le terrain.
Travail des week-ends. Ouais, exactement, donc Decathlon.
Et ça vous a plu, un gros groupe comme ça?
Le rayon, à l'époque, ce n'était pas le cas, parce que je suis quand même assez vieux. Rayon golf. Je suis tombé dans le golf quand j'étais petit avec mes parents. Donc, en plus, un sport assez passionnant avec des gens intéressants et très passionnants, des clients qui étaient formidables. Et du coup, je voulais en faire mon métier. Je l'ai fait longtemps. J'ai travaillé dans le monde du golf très longtemps. Et puis, au hasard des rencontres, j'ai basculé un client pas comme les autres, est venu comme client chez moi pour m'acheter du matériel de golf et m'a dit « Mais Olivier, que fais-tu ici? On a fait une partie de nos études ensemble. Tes connaissances comptables, ton sens du commercial, tu devrais faire de gestion de patrimoine. » Et j'ai basculé en indépendant, en profession libérale, en gestion de patrimoine pendant presque 3 ans.
Donc, en fait, c'est une rencontre qui a fait vous avez pris ce chemin-là.
Un camarade de classe, qui était lui aussi, qui a un cabinet de gestion de patrimoine encore aujourd'hui. Et puis, dans la gestion de patrimoine, vous apercevez que vous avez un affectif plus fort pour un produit. C'est les valeurs mobilières, mais il y a l'immobilier.
Il y a deux grandes familles. C'est l'immobilier et le mobilier, c'est-à-dire la bourse, quoi. Donc, bourse et immobilier, vous, c'était plutôt l'immobilier.
Et puis j'ai eu l'appel du pied d'un promoteur qui n'était pas celui qu'on connaît aujourd'hui, qui s'appelle le groupe Patrice Pichet.
Oui.
Et je l'ai accompagné dans son développement, dans sa croissance pendant quelques années. Et puis, changement de, comme on dit, de crèverie. Parce que le groupe Patrice Pichet est bordelais, donc il fallait pour moi déménager. C'était pas forcément simple à l'époque. Nexity m'a fait un appel du pied. Belles années chez Nexity, dans lequel j'ai beaucoup appris aussi la puissance d'un groupe, puisque numéro un du secteur. Et puis, j'ai appris le marketing qui me manquait un petit peu. Les connaissances marketing. Et pour, il y a 12 ans, faire la bascule pour Vinci Immobilier, pour réveiller la belle endormie, comme je le dis souvent, avec une marque extraordinaire, un fleuron français, et voilà.
Et alors, vous avez fait 3 ans, hein, c'est ça, vous étiez à votre compte, vous étiez indépendant?
En profession libérale.
En profession libérale.
Oui. J'étais rattaché à un cabinet de gestion de patrimoine qui s'appelle MTD Finance, qui existe toujours.
Et ce côté-là, indépendant, profession libérale, est-ce que ça vous a plu ou est-ce que vous avez pu apprendre des choses? Est-ce que ça vous sert encore dans votre expérience aujourd'hui?
Oui, parce que j'ai pris des habitudes de travail et des connaissances de métier qui sont les réflexes que j'ai encore aujourd'hui, puisque moi, mes clients, je ne les connaissais pas avant de les rencontrer. Donc, quand pour un commerçant, apprendre à faire ce qu'on appelle un warm-up pour faire pour commencer un rendez-vous quand on connaît pas les gens. Voilà, bah ça vous apprend à vous inhiber, à être une autre personnalité et à vous forcer à rencontrer. Et à l'époque, les gens nous accueillaient en plus chez eux. Donc c'était un moment privilégié en partage autour dans une famille, et donc ça nous oblige à avoir une chose que parfois les commerçants oublient, c'est l'écoute. l'écoute, il faut écouter les gens, il faut écouter leurs objectifs, il faut écouter leur parcours de vie, il faut écouter ce qu'ils ont envie pour pouvoir s'adapter à leurs besoins et leur trouver le produit qui va leur permettre de passer quelques années et en tout cas utiliser bien le produit comme ils avaient désiré le faire.
J'aimerais juste revenir sur l'expérience en tant que golfeur. Vous étiez golfeur professionnel ?
Ah, pas golfeur professionnel. Non. Professionnel dans la distribution du matériel de golf. Le golf, ça aurait pu être un choix de vie et un choix de parcours de vie, mais je ne l'ai pas fait. Ouais.
Et vous en faites toujours, là, du golf ?
Non.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Le temps.
Ah oui, le temps.
Le temps. Après beaucoup de boulot, une vie familiale auquel je tiens énormément, bah voilà, c'est le golf qui en a pâti. Voilà, mais je me réserve ça pour la retraite. Ouais. Un peu plus tardif, certes, mais pour la retraite.
On va écouter peut-être le témoignage de votre amie Nadia Kateb, que l'on a reçue sur Radio Imo, dans le Mac de l'Imo, qui était venu il y a quelques mois, et qui est amie avec vous depuis quelques années. On va l'écouter tout de suite. Nadia Kateb, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Vous êtes une amie d'Olivier Châtelain-Malherbe, et d'ailleurs vous êtes déjà venue dans le Mac de l'Imo. Pouvez-vous nous dire depuis quand vous êtes amie avec Olivier et comment est-il en amitié ?
Ah bah Olivier et moi, on se connaît depuis une vingtaine d'années. C'est plus qu'un ami, c'est un frère. Au-delà de nous être croisés professionnellement quand on était bien plus jeunes, aujourd'hui Olivier c'est quelqu'un. On est rempli de fraternité l'un et l'autre. On a évolué et professionnellement et surtout sur le plan de l'amitié. Vous êtes avec lui aujourd'hui, vous allez bien vous apercevoir que Olivier fait partie de ces personnes qui dégagent une énergie positive. Vous allez voir qu'il est avenant, souriant, il a une tranquillité d'esprit, c'est quelqu'un qui est apaisant. Et du coup, quand on est dans des métiers comme ça où on subit beaucoup de pression, et ben au contact d'Olivier, on réajuste notre équilibre en fait. Voilà, on est un peu plus serein.
Bien, c'est une belle déclaration d'amitié. Olivier est en studio, il vous écoute. Est-ce que vous avez un message à lui adresser directement ?
C'est que Olivier, bien sûr, je l'adore et je sais qu'il a tendance à l'humilité et ce, avec toute sa position professionnelle, toute sa stature et sa position au sein de son groupe. Et je vous invite à le découvrir d'un point de vue personnel plus que professionnel. Et puis, je vais l'écouter attentivement ce matin. Et puis, je l'embrasse.
Nadia Kateb, la directrice commerciale d'Eiffage Immobilier, un beau message.
Oui, vous voyez.
Plus qu'un ami, un frère. C'est une belle déclaration.
C'est évidemment partagé. Vous savez, il y a des gens comme ça qu'on ne voit pas pendant des années.
Oui.
Mais quand on se revoit, c'est comme si on s'était quitté la veille.
Mais c'est les vrais amis, hein. On dit que c'est ça.
Et c'est d'une fluidité dans le partage, dans le discours, dans l'affection, beaucoup d'amour. Voilà, c'est quelqu'un.
Est-ce que vous avez goûté ces fameuses salades ?
J'ai tout goûté.
Très bonne cuisinière.
Les samoussins, les salades. Nadia est une très bonne cuisinière. Elle a des spécialités à elle qui sont assez magnifiques. Non, c'est quelqu'un avec qui... on se voit régulièrement, dans les bons et les mauvais moments.
Vous êtes rencontré dans le cadre professionnel.
Oui, je l'ai rencontré à l'époque de Patrice Pichet. J'ai été la voir, elle était gestionnaire de patrimoine et j'ai été lui proposer des produits immobiliers. Voilà. Et le coup de cœur immédiat, et on ne s'est pas lâché, on ne s'est pas vu pendant une période. On s'est retrouvé quand elle est rentrée chez Nexity, parce qu'on s'est appelé, je lui ai dit, je suis heureuse que ça soit toi. Et puis on ne se lâche plus.
Et puis on a l'occasion, c'est vrai que vous vous croisez dans différents salons les uns et les autres. Hein, on voit toujours en bonne compagnie, content de vous revoir dans ces salons qui se multiplient hein, d'ailleurs, Bérénice, puisqu'on va avoir le salon de l'immobilier patrimonial. C'est nouveau, ça aura lieu le 6 et 7 avril. C'est une émanation en fait de patrimonial, on peut le dire, hein, ce gros salon à Lyon de la gestion de patrimoine qui a lieu en septembre. C'est vrai que c'est de plus en plus, il y a plus en plus de stands sur l'immobilier. Et bien là, ils ont fait à Paris, donc ce sera le 6 et 7 avril. Vous y serez, Olivier Châtelain-Malherbe ?
Oui, il y aura un stand Vinci Immobilier Patrimoine avec les collaborateurs en responsabilité d'Île-de-France. Et moi, j'y passerai également, évidemment, avec plaisir.
Oui, justement, on vous invitera sur notre plateau. Peut-être un petit mot, alors quand Nadia dit « je vous invite à le découvrir plus personnellement », les amis, vous en avez beaucoup, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez le temps de voir vos amis ? Là, vous parliez de votre vie familiale, c'est vrai que vous avez un travail qui prend beaucoup de temps. Comment vous réussissez à trouver un équilibre entre tout ça ?
Ah bah, il faut être organisé.
Il faut être organisé. Donc plus de golf.
Bah voilà, déjà il y a quelques choses en moins. Voilà. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser. C'est des moments de on vit du stress. On est sollicité régulièrement par ses clients, par ses collaborateurs. Moi j'ai un métier de transversal en plus, donc j'ai toutes les régions qui peuvent me contacter, me solliciter pour des questions de produits, de rentabilité, d'emplacement. Donc oui, on est dans une espèce de machine à laver, mais si on n'a pas ces moments justement dans lesquels on est capable de sortir de la machine et de prendre du temps de partage, et puis dans ces temps de partage avec des amis, c'est aussi ce qui permet de se projeter vers l'avenir. Nicolas Garonne le disait tout à l'heure, c'est ce que j'essaye d'être au quotidien, c'est toujours avoir un ou deux coups d'avance. J'ai failli me remettre à mon compte, être entrepreneur, je ne dis pas que ça ne se fera jamais, hein, mais le partage, en tout cas, moi, au quotidien, c'est ce qui me fait grandir et trouver les perspectives de business qui vont arriver, ce qui va faire grandir mes collaborateurs.
Ouais, mais alors justement, ces collaborateurs, ce n'est pas évident de les suivre, on l'a dit, hein, on a été un peu contraints, bon, évidemment, pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup transformé, il y a des gens en télétravail, et aussi les transports ont été réduits. Alors, il y a des politiques, mais tout le monde fait attention un peu à sa note RSE, responsabilité sociale, sociétale des entreprises. Du coup, moins de transport en avion, vous nous disiez. Comment vous faites pour garder le lien à... Parce que ça s'anime, une équipe commerciale.
Alors oui, alors avec les copains, ils sont plutôt parisiens. Et avec les collaborateurs, vous avez des logiciels informatiques pour se voir à distance, qui marchent de mieux en mieux, qui sont extrêmement bien faits. D'un autre côté, nous, au bureau, on a des écrans de plus en plus grands et qui nous permettent, avec un son de plus en plus parfait, on est assez proche de vous et de la radio et de la télévision, et on a l'impression d'être des uns à côté des autres, et donc on peut se contacter assez rapidement. Bon, d'accord. C'est vrai que ça donne, ça génère un stress parce qu'on est sollicité, on passe de réunion en réunion, parce que là, il n'y a plus les temps de trajet entre deux, donc les plannings se remplissent à la minute près. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut surveiller, auquel il faut faire attention. Donc moins d'avions, oui, et puis aujourd'hui, le ferroviaire s'améliore. Hein. On a vu d'ailleurs, on se rend bien compte qu'il s'améliore, puisque ce matin on l'évoquait ensemble, on évoquait le bénéfice, le profit record de la SNCF. Voilà, la SNCF et le ferroviaire, c'est très agréable à pratiquer, parce que c'est des temps aussi dans lesquels on peut travailler, anticiper.
Et pour autant, les collaborateurs, ils sont contents de voir, notamment en région, ils aiment quand le siège vient à eux.
Ah bah clairement, hein, voilà, moi j'ai cette chance d'être un étendard du siège social quand je vais en région, mais il faut surtout pas oublier à ce que les collaborateurs de région, de province viennent aussi au siège. C'est dans les deux sens que ça fonctionne. Encore une fois, c'est des points de rencontre et de la communication, de l'échange, du partage. On se dit jamais les mêmes choses quand on se voit. Et ouais, parfois, c'est des banalités, mais c'est le plaisir de se voir. Voilà, c'est le plaisir de se voir, se dire bonjour, c'est de se demander comment va la famille. C'est aussi important de se dire que, est-ce que tu as maîtrisé les coûts de construction ?
Et quel est le rythme ?
L'un ne va pas sans l'autre, mais en même temps, tout va bien.
Parce qu'il y a des choses qui se disent, aussi peut-être effectivement à la machine à café, qu'on ne dira pas devant 5-6 personnes en Teams, on est écouté, voire enregistré.
Exactement.
Et quel est le rythme de ces déplacements, justement ? Est-ce que vous imposez des choses ? Est-ce que vous imposez aux collaborateurs de venir tant de fois par mois au siège pour rencontrer les équipes ? Ou est-ce que vous y allez tant de fois par mois ? Enfin, est-ce que c'est les deux ? Comment ça se passe ?
Comme je vous le disais, il y a 8 grandes régions, en fait, chez Vinci Immobilier. Donc, sur 2 mois, normalement, je dois aller une fois partout.
Donc 8 déplacements en 2 mois.
8 déplacements, voilà. Après, dans ces régions, il y a les territoires. Alors, on va plus dans un territoire que dans l'autre si on a un sujet à voir de façon plus précise. Donc, ou plusieurs choses à voir. Est-ce qu'on va parler de commercialisation? Est-ce qu'on va voir un terrain, vérifier la qualité et l'emplacement d'un terrain? Voilà, c'est des petites choses comme ça. Et puis, Nicolas Garonne, qu'on évoquait tout à l'heure, a été nommé directeur commercial cette année, en 2022. Mm-hmm. Et du coup, ça me permet aussi, moi, d'être un peu plus au siège. Et lui, il tourne comme une toupie. tourne comme une toupie un peu plus, donc on essaye d'être, on est à deux maintenant pour faire le tour, voilà.
Oui, parce que j'imagine que c'est plus facile de moins se déplacer, surtout quand on a une famille.
Oui,
comment vous faites pour trouver l'équilibre avec votre famille, vos enfants, justement?
C'est pas facile. Hein. Je pense que si on leur posait la question, ils diraient que je leur manque. Mais j'essaie d'être présent dans les moments stratégiques et en tout cas toujours à l'écoute. Voilà.
Le week-end, vous arrivez à couper ou vous avez toujours un portable greffé?
J'arrive maintenant à mieux couper le week-end.
Ouais, oui, vous forcez à couper.
Bon, je vous dis ça, et puis il va y avoir la période des nouvelles mises en com de produits qui est le mois d'avril, dans lequel il va y avoir et donc il y a des mises en com le week-end, et donc le samedi est un moment stratégique de la commercialisation, donc il va y avoir quelques coups de fil, mais...
La mise en com, on explique peut-être aux auditeurs.
C'est un petit peu le mot de chez Vinci Immobilier pour dire qu'on met un nouveau produit sur le marché, voilà.
Ouais, donc, temps fort.
Un lancement commercial temps fort commercial, marketing et stratégique.
Est-ce que ça se fait encore la bulle de vente ou est-ce que tout c'est sur Internet désormais?
Non, ça se fait encore. Et puis il y a des volumes, il y a des produits qui nécessitent d'avoir un bureau de vente sur site. Voilà.
On a l'impression qu'il y a une telle pénurie aujourd'hui qu'il suffit de vous mettre sur Internet et que peut-être la moitié du programme va être réservé très rapidement. C'est vrai ou pas?
Non, c'est pas vrai.
D'accord.
Non, pas du tout. Non. En fait, je préconise ce qu'on appelle le figital. C'est que les outils digitaux nous ont permis de mettre en valeur nos produits de façon différente. Mmh. La plaquette papier est désuée. On est plus sur des plaquettes digitales, évidemment. Mais le conseil, et là je rejoins mes camarades de l'immobilier ancien, des conseillers bien formés, spécialistes, c'est essentiel pour faire une bonne transaction immobilière.
Être bien entouré, c'est le plus important.
C'est clair. On se doit d'être professionnel, de bien connaître nos métiers pour pouvoir accueillir les gens et les renseigner de façon correcte, au-delà du fait de se dire qu'ils vont habiter dans un appartement sur un emplacement défini. On doit tout leur expliquer. On doit leur expliquer l'immobilier à 360 et ce que va générer leur acquisition.
En fait, c'est beaucoup de relationnel. Hein. Vous le disiez tout à l'heure, le plus important pour un commercial, c'était d'écouter, mais aussi de faire de la pédagogie. En fait, c'est vraiment...
C'est exactement.
C'est vraiment la relation, chouchouter le client, l'écouter et le conseiller.
D'autant que ces programmes, avec souvent maintenant, il faut que ça soit beau. En plus, vous l'avez dit, il lui respecter bien sûr les normes de construction, le DPE, etc. Mmh. Mais en plus, il faut que ça soit joli, ça s'intègre dans des quartiers. Vous travaillez beaucoup, notamment parfois sur des friches ou des rénovations de quartiers. Donc, ça transforme aussi complètement un habitat. Il faut essayer de se projeter ou d'aider le client à se projeter, peut-être alors que le quartier n'est pas formidable,
clairement,
mais il se transforme.
Clairement, le digital nous aide vraiment à pouvoir gommer sur un terrain une friche industrielle existante et de dire regardez demain le joli parc paysager et votre programme qui va se trouver au cœur de cet îlot de verdure. Si le digital nous y amène, clairement. On y arrivait un peu avec les maquettes physiques auparavant, mais c'est vrai que là on a monté d'un cran dans les qualités.
Avec ces maquettes à 360 degrés, c'est vrai
qu'ils sont...
Dans les qualités de restitution. Puis vous venez de parler d'une chose importante qui est les friches industrielles, sur lesquelles en fait le groupe il porte une grande attention, puisque c'est transformation.
L'avenir, en fait.
C'est la transformation urbaine. Vous avez parlé tout à l'heure, Fabrice, du ZAN, de zéro artificialisation nette. Nous y sommes, en tout cas, la présidence de Vinci Immobilier s'y est engagée début 2022 avec un objectif 2030 à zéro artificialisation. Donc on challenge ce que les pouvoirs publics nous demandaient. C'était une vision 2050.
Oui,
donc
parce que c'est ça. Dans la loi climat résilience, c'est 2050 et vous êtes dit, nous, ce sera dès 2030.
Dès 2030.
Et c'est réalisable, ça, c'est tenable?
Alors, je ne vous cache pas que, d'abord, la population des développeurs chez nous a dit, mais comment va-t-on faire? Mais, en fait, il y a des difficultés, surtout dans certaines régions. Je parle, parce qu'il y a des... y a des régions dans lesquelles on avait, dans le sud par exemple, on construisait sur des anciens vergers, on construisait sur des anciennes serres, voilà, c'était, on remplace donc de la verdure par un immeuble. Donc là c'est très contraignant et c'est beaucoup plus difficile. Et il y a moins d'industrie. Dans le sud-est, l'industrie était très peu représentée. Par contre, on arrive quand même à trouver des solutions, l'immobilier de bureaux qu'on transforme, des anciens hôtels qu'on transforme dans ces régions-là. Et puis dans d'autres régions, il y a des grosses friches industrielles. Hein, on s'est associé à une structure qui s'appelle Brownsfield pour acheter les terrains, les anciens terrains Engie, qui sont là, soit du gaz, soit de l'électricité, etc. Et dans lequel on
qu'il faut fait, dépolluer, et
qu'il faut dépolluer et qu'on transforme, et on en a sur donc toute la France.
Ouais.
Et puis pour motiver nos collaborateurs et les développeurs, et pour pas qu'ils soient tristes de se dire qu'ils ont moins de territoire
à prospecter,
merci Fabrice, et bien on a créé déjà une calculette. Une calculette ZAN, qui donne un coefficient par programme pour venir au comité d'engagement pour savoir si oui ou non ça va passer.
Augustin Faucheur, juste avant, nous disait hier, je précise, on a reçu le club, dans le cadre du club notarial d'Imo, un architecte qui nous disait, c'est vrai, quand on pense à Paris, évidemment, c'est extrêmement dense et là, c'est compliqué. Mais dès qu'on s'éloigne, ne serait-ce qu'en première, deuxième couronne, c'est beaucoup moins dense et on trouve encore beaucoup, beaucoup d'espace.
On va écouter tout de suite le dernier témoignage, celui de votre épouse Marie-Christine Châtelain-Malherbe. On écoute tout de suite sur Radio. Marie-Christine Châtelain-Malherbe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'épouse d'Olivier. Depuis combien de temps êtes-vous mariée ?
Nous sommes mariés maintenant depuis presque 22 ans. Nous sommes mariés le 31 mars 2001 et nous sommes rencontrés il y a 25 ans.
Et alors, que pouvez-vous dire sur cette magnifique relation qui dure ?
Absolument. Alors, je n'ai pas de secret de longévité, évidemment, mais ce que je peux vous dire de mon mari, en fait, ce qui m'est venu quand vous m'avez interrogé au préalable sur lui, ce qui m'est venu, c'est de parler de ses yeux et le bleu de ses yeux. Ce bleu assez fascinant qu'il a construit en tout cas tout au long de sa vie et qui lui a donné aussi une certaine force. Et c'est en réfléchissant en fait sur ce qui le caractérisait le plus que cette idée m'est venue. Donc j'ai envie de vous dire que dans les yeux de mon mari, on dit souvent que les yeux sont le reflet de l'âme. Chez mon mari, ses yeux en disent long sur lui. D'abord sa profondeur, sa sincérité, sa force, son authenticité, sa conviction et son audace. Le bleu, ce bleu en fait qui m'est si cher, c'est aussi la couleur des yeux de nos deux enfants. D'ailleurs, c'était très important pour lui, en tout cas, que nos enfants aient les yeux bleus, comme une marque de fabrique, comme un prolongement de lui-même, une envie de transmettre des choses au travers de ce bleu. Et je rajouterais juste une chose, c'est qu'il y a eu aussi une chanson d'Édith Piaf. Alors, je ne sais pas si elle a été écrite par Aznavour également, mais en tout cas, elle a été chantée avec lui, qui dit « Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. »
C'est beau.
Voilà.
C'est très beau. Bon. En tout cas, c'est un témoignage touchant. Il est avec nous, Olivier est avec nous en studio. Est-ce que vous avez un message à lui adresser ?
Oui, bien sûr. Je voudrais lui dire que je l'aime et que je suis heureuse et fière d'être à ses côtés.
Un beau message de votre épouse, c'est touchant. Et puis c'est vrai, moi j'avais vu votre fille lors d'un événement et c'est vrai qu'elle a exactement vos yeux, de grands yeux bleus. Elle est magnifique d'ailleurs votre fille. Et donc voilà, l'importance pour vous
merci,
que vos enfants aient les yeux bleus. C'est...
Vérité, force, profondeur, audace. Ouais. Voilà une belle description. Bel hommage de votre femme. 22 ans que ça dure. Hein. 31 mars 2000. Attention à la date. Hein,
faut pas je l'ai. Vous inquiétez pas, je l'ai bien.
Le bleu, alors elle dit, non mais elle dit effectivement que c'est important pour les enfants. On choisit pas, Olivier. Comment vous auriez fait si vous avez
si on choisit.
Alors vous allez me donner
quand on doute pas, on choisit. Voilà, non, mais c'était moi ça m'a suivi depuis très jeune. J'ai failli en perdre un, vous voyez, j'ai quelques cicatrices, mais ça m'a suivi tout mon parcours et donc. Pour moi, je me suis toujours dit que ça m'ouvrait la première porte. En tout cas, c'était pour moi un dégel, le fait d'avoir les yeux que j'ai. Voilà, je me suis peut-être construit autour de ça. Je vous avoue que j'ai pas enquêté davantage sur ça, mais voilà, c'est oui, c'était important parce que du coup, voilà, mes enfants peuvent le vivre, et ma fille le vit, dans lequel on lui rappelle régulièrement qu'elle a de beaux yeux.
Mmh. Porte les yeux bleus. Voilà. Alors, on va bientôt se quitter. Juste avant, j'aimerais qu'on revienne sur une de vos passions qu'on n'a pas évoquée, c'est l'automobile. Dans en long, en large, en travers, je crois. Vous aimez les voitures. Qu'est-ce que vous aimez concrètement? Les voitures anciennes, les voitures...
La course.
Mon parcours a fait que j'ai croisé des gens qui étaient collectionneurs. J'ai croisé des gens qui étaient dans le sport automobile. J'ai croisé des. J'ai aimé rouler vite. Sur circuit fermé. J'ai fait du karting. J'ai fait beaucoup de choses qui sont liées à ça.
Et alors Verstappen ou Hamilton?
Vraiment?
Ouais.
Ni l'un ni l'autre.
C'est vrai? Leclerc plutôt?
J'aime bien les outsiders, moi. J'aime bien. Moi, j'ai ce tempérament d'outsider. Vous venez de citer deux super pilotes avec deux super machines. Voilà.
Vous êtes quelle écurie, vous, plutôt?
Bon, de cœur, Ferrari, parce que pour moi, c'est légende. Et puis, il y a de l'histoire avec ça. Et comme j'aime la transmission et les histoires, voilà, je vais faire ça. Mais là, quand on voit Alpine qui revient, je trouve, on réécrit aussi des nouvelles lignes d'histoire. Je trouve ça génial.
Et française, en plus.
Et outsider et française, voilà.
Donc, avec deux Français pilotes. Hein. Bernie, c'est quand le début?
Exactement.
Mais là, il y a eu les essais.
Oui, vous êtes couché tard.
C'est pour ça que j'ai évidemment.
Voilà. Et Bernie, c'est une grande fan de la F1. On suivra le championnat donc dans le Mac de Limoges. Je vous l'annonce toute cette saison.
Tout à fait, je vous ferai des points chaque vendredi. L'émission touche à sa fin. Dernier choix musical, c'est Gypsy King, Un Amor. Pourquoi cette chanson? Un Amor.
Vous venez d'entendre ma femme.
Eh oui.
Et voilà.
C'est pour elle.
Vous voyez à quel point je l'aime. Donc voilà, et c'est un peu pour elle. Elle est d'origine espagnole. Donc vous imaginez bien que c'est important. C'est en plus une façon de vivre que j'ai adoptée au-delà avec elle. Voilà, c'est un pays que j'adore, une façon de vivre, de partage, les amis, l'apéro, tout ça. Et puis voilà.
L'épicurisme.
Et puis ce que m'apporte, la force que m'apporte ma femme, vous la ressentez dans cette chanson.
En tout cas, c'était un grand plaisir, Olivier Châtelain-Malard, de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau du Mac de Limo.
Partagez.
On se retrouve très prochainement, la semaine prochaine pour un Mac de Limo, mais ça continue, Bérénice, dans quelques instants.
Tout à fait, nous sommes en direct dans quelques instants pour le Allo Radio Imo, dans lequel nous recevrons Mathieu Simon, qui est notaire pour 137 notaires, et Thierry Vignal, le président de Mastéos, qui vont nous parler des fameux DPE qu'on a évoqués, de la loi climat et résilience. On va faire le point, on va tout savoir. Rendez-vous dans quelques instants, et sinon, la semaine prochaine, pour un nouveau Mac de Limo.
Para ya vivir junto a ti, me enamoré allá de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado. Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré allá de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado. Yo quisiera un para atender a un amor y saber que me quería. Ya tormenta las palabras de Dios. Para ya vivir junto a ti, me enamoré allá de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado. Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré allá de ti.
no puedo vivir en él.
Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.